Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, je reçois un formidable footballeur, ancien international et champion d'Italie avec l'Inter Milan, Olivier Dacour. Ce magnifique milieu de terrain a grandi à la cité Emmaüs d'Aulnay-sous-Bois, formé au Racing Club de Strasbourg. Il se révèle à Lens. Olivier Dacour poursuit sa carrière à Leeds en Angleterre avant de se rendre en Italie où il va jouer aux côtés de légendes telles que Patrick Vieira, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Totti, Javier Zanetti. Après 3 années à l'AS Rome, il remporte 3 fois le championnat d'Italie avec la mythique équipe de l'Inter Milan. Après le coup de sifflet final de sa carrière de footballeur, Olivier Dacour devient consultant, notamment à Europe 1 et Canal+. Il réalise des documentaires et même un film sur la route de papa. L'ancien international a trouvé son inspiration en s'appuyant sur sa foi, car Olivier Dacour est un athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Oli Games.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci infiniment d'être là, dans ce studio Coluche, pour l'émission Athlète de Dieu.
Merci pour l'invitation, c'est très gentil à vous.
La tradition, c'est que nous avons plusieurs bougies, et on propose à tous nos invités d'allumer une première bougie pour justement nous aider et nous éclairer dans nos échanges. Olivier, vous avez quelques bougies en face de vous, laquelle vous voudriez choisir ou allumer
la
virtuellement.
Verte, couleur de l'espoir.
Elle est magnifique, et je vous laisse lire la phrase qui est sur cette bougie.
Les derniers seront les premiers. C'est ce que je dis toujours à mon fils.
Non.
Ouais.
Pourquoi ? Votre fils n'est pas dernier quand même.
Non, je lui dis toujours que les derniers seront toujours les premiers. Même quand c'est difficile, regarde pas les autres qui sont devant.
C'est une façon de se dire, la vie il y a des échecs, mais en fait, on rebondit, il faut pas avoir peur.
En même temps, je leur dis également, Ecclésiaste 3, temps et durée, il y a un temps pour tout dans la vie.
C'est-à-dire, Olivier Dacour ?
Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour ne pas aimer, il y a un temps pour planter.
Et là, il y a un temps pour faire de la radio et pour faire un prêtre de Dieu.
C'est ça. Il y a 15 heures, il y aura un temps d'arrêter.
Voilà, exactement. Parce qu'on enregistre qu'aujourd'hui, eh bien, il est 14h24 au moment exactement où nous parlons.
C'est incroyable.
La bougie verte ?
Non, le message.
Ah, le message est très beau et c'est tiré de l'évangile. J'ai un superbe évangile et on va vous offrir à la fin une bougie. Vous pourrez la garder et même la donner à votre fils. On a un évangile en face de nous. Je vais vous proposer justement, peut-être au hasard, de prendre une phrase de l'évangile et ça va nous aider aussi dans cette émission. Parce que, est-ce que l'évangile est chez vous ? Est-ce que vous le mettez à disposition ? Olivier Dacour ?
Moi, je lis la Bible. Toujours.
Régulièrement ?
Régulièrement. Tous les jours. Hein. Moi, je prie le matin et le soir. La première chose que je fais le matin, je lis le psaume 5.
Alors, quel est le psaume 5 ? Vous pourrez peut-être nous le lire, le psaume 5, justement. Vous le connaissez par cœur ?
Oui, je le connais. Après, j'ai un rituel de psaume à faire, que je lis tous les matins. Et le soir, j'ai d'autres psaumes que je lis aussi le soir.
Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors, je pense à Olivier Giroud, notamment, qui s'appuie sur les psaumes. Les psaumes, c'est sont des phrases qui sont magnifiques, qui nous aident, qui nous apaisent. Est-ce que ça, c'est aussi vous, ce rituel-là, cette façon de vivre votre foi ?
Oui, c'est ça. Après, l'héritage, moi, j'ai reçu ça en héritage, la foi, parce que ma mère est à la foi. Elle a une foi très importante. Et je pense que j'ai hérité de ça d'elle.
Votre maman est guadeloupéenne, c'est ça ?
C'est ça. Et aux Antilles, on sait à quel point la religion est importante. Donc, j'ai baigné dedans, je m'en rends pas compte. En fait, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Je peux vous dire, j'ai fait le carême, j'ai perdu 11 kilos.
11 kilos ?
Ouais.
Ah oui, c'est pas n'importe quel carême.
Ouais, j'ai fait le carême, ouais, j'ai renoncé à beaucoup de choses.
Parce que vous voyez, je suis très admiratif des musulmans. Qui font un ramadan très souvent vraiment exemplaire. C'est-à-dire que pendant toute la journée, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Le carême...
Moi, par exemple, mon
pour
carême...
Pour vous, Olivier Dacour ?
Il s'est traduit cette année, je n'ai pas bu d'alcool pendant 40 jours.
D'accord.
Très difficile.
Très, très difficile, oui.
Le vin, renoncer au vin.
Vous aimez bien le vin, oui.
Pas de cigare, Je fume le cigare. Très dur. Pas de viande. 40 jours sans viande.
Et on prend une claque, là. Hein.
Ouais, pas de sucreries.
Ah, et pas de bonbons, rien.
Pas de bonbons.
Pas de coca, pas de soda.
Pas du tout. Et après, essayer de vivre comme les nécessiteux. Parce que je sais que je suis privilégié.
Mais pourquoi vous faites un carême aussi rigoureux, aussi strict?
Parce que j'ai la chance d'avoir j'estime que j'ai une vie sympathique. Et l'histoire de 40 jours, d'essayer de vivre plus durement, on va dire.
Est-ce que vous avez l'impression de vivre comme Jésus 40 jours dans le désert? C'est ça? C'est l'idée de reproduire un peu ce qu'a vécu Jésus?
Oui, c'est moi déjà. C'est un peu. Mentalement, c'est pas facile, mais c'est difficile et c'est rien par rapport à ce qu'a vécu Jésus.
Quel est l'effet sur votre spiritualité, un carême de cette façon? Est-ce que ça vous permet d'entrer dans la semaine sainte différente?
Non, mais je trouve que même en vieillissant, parce que je l'adapte tous les ans, il y a quelque chose en plus. Je rajoute quelque chose.
À chaque fois, vous rajoutez une difficulté.
Ouais, une difficulté, ouais.
Il y a le côté sportif un peu, non, qui parle d'ailleurs.
Probablement, parce qu'à chaque fois, tous les ans, je rajoute quelque chose. C'est très étrange, ouais.
Mais qu'est-ce que vous en tirez de ça? Qu'est-ce que ça vous permet de faire grandir en vous?
Mais d'être meilleur. D'être meilleur.
Mais meilleur en quoi, Olivier Dacour?
Meilleur dans la bienveillance, déjà, envers son prochain. Ouais. D'être meilleur. Ouais. Déjà, ça, c'est le. J'ai envie de dire que c'est la première chose que je fais pendant mon carême. C'est d'essayer d'être meilleur. Même des gens qui m'ont blessé, c'est un moment où je leur pardonne.
Vous avez besoin de ce temps-là, justement.
Ouais, probablement. Ouais. Il faut un peu. Après, je sais que mes amis disent que je suis fou.
Non, vous n'êtes pas fou.
Non, parce que.
Vous croyez.
Ouais, parce que je fais des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont très étranges. Moi, par exemple, c'est pas très étrange, mais quand j'ai fait mon film, je suis parti dans un monastère. C'est très étrange. Parce que je pense que si j'avais pas fait ça, j'aurais fait probablement un burn-out.
Alors, donc, le film, c'est Sur la route de papa. Et vous dites, parce que là, c'est sorti en salle il y a quelques mois, en 2025.
Ouais, c'était justement, c'était Jacques Vendroux qui m'avait reçu ici parler du film.
Ouais, je me souviens. Et vous parlez de burn-out, c'est-à-dire que c'était tellement intense, tellement dur, tellement prenant, hein, qu'il a. Vous êtes parti dans un monastère.
Ouais, non, c'est dur parce qu'on n'est pas préparé à tout ça, en fait. Moi, je suis un ancien sportif. Après, j'ai eu la chance de faire des documentaires avec Marc, qui ont bien marché, mais se lancer dans ce film. Marc Sauvourel.
D'accord.
Qui co-réalise tous mes docs. On a fait tous nos documentaires ensemble. Et là, ce film, produire et réaliser un film tout seul, en tout cas le produire tout seul, c'était un défi. Et si j'avais pas eu Dieu à mes côtés, je pense que je l'aurais pas réalisé. Ça, c'est une certitude.
Je voudrais vous faire lire le psaume 5, justement, parce que on en parlait en début d'émission, et c'est un psaume que vous lisez régulièrement.
Alors, le matin, je lis le matin, en fait.
On l'a retrouvé.
Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin. Tu écoutes ma voix. Au matin, je me prépare pour toi et je reste en éveil. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants. Tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Pour moi, grâce à ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple saint, je me prosterne, saisi de crainte, Seigneur, que ta justice me conduise. Des ennemis me guettent, aplanis devant moi ton chemin. Rien n'est vrai dans leur bouche, ils sont remplis de malveillance. Leur gosier est un sépulcre béant et leur langue un piège. Dieu, traite-les en coupables, qu'ils échouent dans leurs projets. Pourtant de méfaits, disperse-les, puisqu'ils te résistent.
Alors, Olivier, là, ça parle de choses assez dures. Ça parle de combat, ça parle de malveillance, ça parle d'adversité et du soutien de Dieu envers vous et envers toutes les personnes qui croient.
C'est ça.
La vie n'a pas été simple, sans doute, pour Olivier Dacour.
Elle est simple pour personne. elle est simple pour personne, la vie est difficile.
Vous diriez que c'est un combat ou que c'est une joie ?
La vie est belle, mais elle est difficile. La vie, Dieu, mais je pense que c'est facile de prier Dieu quand ça va. Quand ça va. Pas quand ça va.
Oui,
c'est quand ça va pas. C'est facile de prier Dieu quand ça va pas. Parce que c'est le désespoir qui parle, on a besoin de s'accrocher à quelque chose. Mais quand ça va, c'est là où c'est plus difficile. Moi, j'ai eu la chance de faire un métier que j'ai voulu. J'ai eu énormément de chance dans ma vie. Et je me dis souvent que s'il n'avait pas été à mes côtés, j'aurais pas fait un dixième.
Vous nous avez pas dit dans quel monastère vous êtes allé vous recueillir pendant 15 jours.
Ouais, non, je parle pas d'où je vais, mais c'était dans le sud de la France.
Ouais.
Et c'était dans le Vaucluse, entre Salon de Provence et... Comme ça, je vous ai donné des...
Ah oui, il y a des indications, là. Alors, on va demander à Isabelle de Châtelet, avec tous les monastères de France, de l'IGEMS, de nous trouver le nom.
Mais ce qui est intéressant, c'est de se retrouver, déjà. On peut pas être bien avec les autres, sinon, déjà, personnellement, on se sent pas bien.
Je trouve que votre témoignage d'aller dans un monastère, de se couper du monde et de prendre un temps de respiration est très inspirant. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on fait dans un monastère et qu'est-ce que fait un footballeur dans un monastère ?
Qu'est-ce que fait un footballeur à l'église ? C'est la même chose. C'est qu'il va se recueillir, il prend un moment pour lui. Mais moi, j'attends pas le dimanche pour aller à l'église. Moi, si je me sens pas bien, je marche dans la rue, je rentre dans une église. J'ai un peu de temps, je suis en avance, je rentre dans une église.
Ouais, c'est beau. Et c'est vrai que d'aller dans une église, c'est reposant. Vous mettez-vous d'ailleurs dans une église ? Vous avez une habitude ?
Ah oui, moi je suis un grand adepte rue du Bac, la chapelle de Marie. Je suis le plus grand fan de cette chapelle.
Ah mais écoutez...
Moi j'y vais toutes les semaines.
Ah toutes les semaines ?
Oui, toutes les semaines.
On va peut-être se croiser alors. J'aime beaucoup cette chapelle aussi. Cette chapelle, il faut rappeler... Olivier, est-ce que vous pouvez rappeler quelle est cette chapelle ? Parce qu'on a tendance beaucoup à parler de Lourdes, qui est un lieu d'apparition, mais il y a un lieu d'apparition qui est à Paris.
Ouais, la miraculeuse, on dit ça, c'est que, après, pour le coup...
C'est sœur Catherine Labouret, qui est une sainte,
qui
a eu cette apparition de la Vierge Marie, et qui lui a dit de faire frapper cette médaille. Et ça tombe bien, parce que dans ce studio, nous avons cette médaille.
Oh, c'est énorme.
On vous l'offre.
Merci.
Le Seigneur fait bien les choses.
Ah oui, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, et vous avez une prière d'ailleurs.
Vous savez, en plus, c'est très étrange, c'est que je suis jamais rentré dans la boutique. Il y a toujours tellement de monde que j'ai la flemme. Donc je passe tout droit et je me dis, hein, ça serait bien qu'un jour que je puisse acheter cette médaille. Et elle est là. Merci à vous.
La force de la prière, c'est aussi ça. Il y a des petits clins d'yeux, comme on dit souvent.
Ah ouais, bravo.
Ça en fait partie. La prochaine fois, vous irez, vous verrez, il y a des sœurs adorables et vous avez des livres et il y a l'histoire.
Je discute avec elle parce que je fais des dos. Donc, je mets des petites enveloppes de temps en temps.
Ah oui. Ah ça va leur faire plaisir. C'est surtout votre prière, mais c'est vrai que ces dons, c'est super.
Ouais, pour ceux qui les nécessitent toujours. Ouais.
Et la phrase, vous la connaissez sans doute, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Est-ce qu'Olivier, la Vierge Marie, je pose souvent cette question.
C'est surtout la période de la Vierge Marie en ce moment.
Ben oui, on est au mois de mai, c'est le mois de la Vierge Marie. Ah, vous saviez ça en plus. Vous êtes formidable.
Un petit peu quand même.
Ah bah ouais, quand même. Non, si.
Ah oui, je vous ai dit que si je suis là cet après-midi pour parler de Athlète de Dieu, c'est que j'ai la foi, mais une foi qui est très présente.
Ouais, c'est
parce que j'ai un agenda qui est très 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 compliqué, j'ai pas beaucoup de place. Et en fait, je vous ai fait une petite place parce que c'était important.
D'abord, rappelez-nous comment cette foi a été vécue en famille. C'est votre maman, c'est ça, qui vous a transmis amour de Dieu ?
Ma mère, ma grand-mère, mes tantes. Bah, après, c'est la communauté antillaise est très présente. Il y a la religion, elle est importante dans nos vies. Donc, on vit avec ça depuis que je suis petit. J'ai fait du catéchisme, j'ai tout fait.
Vous avez tout fait ? La totale, comme on dit. Donc, baptême.
J'ai pris perpète. J'ai tout fait. Donc pour moi, c'est... La petite anecdote.
Allez-y.
J'ai signé à Rome.
Oui.
Aussi parce qu'il y avait le Vatican. Tous les jeudis soirs, j'allais au Vatican.
tous les jeudis soirs.
Ouais, à 18h30. Quand on jouait pas, quand on participait à la Ligue des Champions, je faisais le jeudi soir. Quand on jouait pas le jeudi, parce que j'habitais dans le centre au départ. Donc quand j'habitais le centre, tous les jeudis, j'y allais.
Saint-Pierre.
Ouais.
C'est beau, Saint-Pierre. C'est
grand. Mon fils, j'ai un de mes garçons, Lenny. Justement, on l'a baptisé à San Giovanni. C'était l'église de Saint-Jean, en fait. C'était où, le premier baptême.
D'accord. À Rome. Le premier baptême à Rome, c'était à San Giovanni. Ouais. Et votre fils a été baptisé là-bas.
Ouais.
Waouh. Ah oui, c'est la force du symbole est très fort.
Ouais, ouais. C'était même impressionnant, ouais.
Quoi, il a 25 ans aujourd'hui, il a quel âge votre
fils? Il a 24 ans, mon fils.
24 ans, voilà.
Ouais. Ouais. Mais pareil, ils ont été...
Vous avez combien d'enfants d'ailleurs?
J'en ai 5.
Ah oui, c'est beau.
Ouais. J'ai 29, 26, 24, 21 et une petite. Ouais, ouais, qu'on a attendu un petit peu, ouais. Ouais.
Et vous avez transmis cette foi à vos enfants?
J'emmène ma fille à l'église le dimanche. Quand on a la foi, peu importe, hein, catholique, ouais, musulman,
juif, bouddhiste, hindouiste.
Quand on a la foi, on a peur de Dieu. Si on a peur de Dieu, on va essayer d'avoir toujours un comportement bienveillant.
C'est la sainte crainte de Dieu. C'est quoi la sainte crainte de Dieu? Avoir peur, mais peur de façon positive, d'une certaine façon, Olivier Dacour.
Ah non, c'est pas une peur. Je me dis pas, si tu fais ça. Non, c'est juste dans le mindset. C'est-à-dire que il faut essayer d'être meilleur tous les jours. Tous les jours, il faut essayer d'améliorer sa personne.
Alors, on a des bougies, et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de ce monastère et de plein de sujets qui sont passionnants, mais on a oublié d'allumer la deuxième bougie. Donc, je vais quand même vous demander, parce que c'est notre rituel dans l'émission. Je vais prendre le rose. Je vais me faire taper sur les doigts, sinon.
Par ta victoire, grandit son éclat.
Des victoires, vous en avez eu, notamment en Italie.
Ouais.
Ça nous rapproche justement de Saint-Pierre de Rome. C'est là où vous avez connu et à l'AS Rome, les deux.
La Roma, ce qui était bien, c'est que nous, on avait une petite chapelle et on avait une messe.
Pour les footballeurs?
Ouais, nous, dans le centre d'entraînement où on dormait, nous, on avait une chapelle.
Wow.
Et avec Damiano Tomasi, on était les plus adeptes de la messe du samedi soir avant le dîner.
Et alors, il y a eu des échanges, justement, tout au cours de votre carrière, notamment en Italie, sur cette foi, une foi qui est peut-être encore plus ancrée en Italie.
Encore plus ancrée, ouais, en Italie, parce qu'on a eu la chance. Pareil, quand on gagne des titres, j'ai rencontré deux ou trois papes.
Alors, vous avez eu, peut-être pas Jean-Paul II aussi, Jean-Paul II, vous l'avez eu? Jean-Paul II.
Ouais, il est mort en 2005.
Oui, il est mort en 2005.
Avril 2005.
Et vous y êtes entre 2006 et 2009.
Non, moi j'y suis en 2000.
2006-2009 Inter et Roma 2003-2006.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'arrive fin 2002-2006 à la Roma. Et après, 2000. Après, j'ai rencontré Benoît Sedici.
Benoît XVI.
Et on était ensemble.
Pas François, on était ensemble au pèlerinage organisé par le Variété Club de France de Jacques Vendroux, ouais, qui était formidable.
C'était incroyable, ouais.
Quelques temps avant son grand départ. Quel pape vous a le plus marqué, puisqu'on parle des papes?
Celui, je crois que Francesco,
François.
François.
L'avant-dernier.
Ouais,
Francesco, vous parlez en italien.
Ouais, je parle en italien.
Mais c'est super, parlez en italien.
Je pense que il a fait beaucoup de choses. Après Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est extraordinaire. Jean-Paul II, c'est...
Pape du sport, en plus.
Ouais, c'était incroyable. Il a fait beaucoup.
Jean-Paul II disait, le sport est la joie de la vie.
Ouais, tout à fait. Jean-Paul II, ouais, et Francesco.
Et le pape François, parce qu'il était un grand amateur de football.
De football,
il
aussi.
Il était socios des San Lorenzo.
Ouais, en Argentine, ouais.
Et on a eu l'occasion de lui remettre un maillot avec la présence de Wilfried Mbappé, de vous-même. Il y avait Robert Pires, enfin toutes les légendes.
Il y avait Arsène.
Ça vient de dire, ouais.
Il y avait Christian Carambeu.
Christian Carambeu, bien sûr.
Non, il y avait.
C'était magnifique ce moment.
Ouais, c'était intense, ouais.
C'est pas rien de rencontrer un pape, non? Ça fait quelque chose, hein. Même quand on est Olivier Dacour, qu'on est un grand footballeur, qu'on a une grande carrière, on rencontre quand même quelqu'un de différent.
Ouais, j'ai eu, pour être très honnête, celui où j'ai eu le moins de, c'était Benoît XVI.
Alors, c'était un grand théologien. Il était moins démonstratif.
Ouais, il était dur, je trouvais.
Peut-être dans l'approche humaine.
Ouais, humaine, ouais.
Mais je crois, et l'avenir nous le dira, qu'il pourrait être canonisé peut-être un jour ou béatifié parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de bien et il a beaucoup prié. Et je crois que intérieurement c'était quelqu'un de très doux. Mais après, moi je l'ai pas connu, mais c'est un peu ce qu'on me disait. Donc Benoît XVI, grand pape aussi. On a de la chance avec nos papes. Et Léon XIV. Léon XIV, un pape qui aime le tennis notamment. Donc ça vous parle aussi. Ça,
ouais, c'est le sport. Moins. Mais
moins que le foot.
Moins que le foot.
Olivier Dacour, on va évoquer ensemble votre parcours aussi à la lumière de votre jeunesse. Et j'aimerais qu'on revienne en quelques mots, parce que on va en reparler dans quelques instants, mais je voudrais qu'on parle de ce centre de formation de Strasbourg. Vous êtes envoyé là-bas à Strasbourg, vous avez 13 ans. Comment on fait pour entretenir ou pour garder la flamme de la foi quand on est arraché un peu à sa famille pour aller vivre son grand rêve, espérer redevenir footballeur, c'était votre grand rêve?
Mais quand on a des moments difficiles, on s'accroche. La foi nous permet de nous accrocher. Parce que c'est pas facile.
C'est pas facile, le centre de formation, vous l'avez toujours dit.
Le centre de formation, c'est dur. C'est très dur. Les gens, il y a une méconnaissance, justement, sur le taux de réussite des centres de formation. Des joueurs qui passent par un centre de formation et qui font carrière derrière. Le pourcentage est minime. Et après, il y a une dureté. On devient des hommes plus rapidement.
Parce qu'on est aussi arraché à tous ces liens familiaux, à ces grandes fêtes qu'on ne peut pas suivre. Les
c'est
copains
ça.
Qu'on laisse à la cité.
Les copains, la famille, on est un petit peu... c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup de sacrifices.
Et puis il y en a qui ne réussissent pas aussi.
C'est ça, quand on a la chance de faire une carrière, on se dit toutes ces concessions, tous ces sacrifices en valaient la peine. Mais quand on ne réussit pas... Ça peut être, je l'ai connu, donc on peut connaître le suicide.
Ouais, je sais, vous avez connu ça avec Alexandre, qui était votre copain de chambre, qui malheureusement nous a quittés. Et ça, c'était. Ça.
C'est dur. Ouais. Ouais, c'était pas facile. Ouais. Avec du recul, parfois je me dis, ah ouais, quand même.
Comment vous avez pu surmonter cette épreuve?
La foi. Il l'a appelé. Et c'est comme ça, c'est que il faut savoir que dans la vie, quand on est, on sait qu'on va, il y a la naissance et il y a le décès. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça.
La vie est un passage.
Faut croire, faut espérer que ça soit un passage, que la vie sera meilleure après.
Est-ce que ça vous arrive de prier pour lui? Ou est-ce que vous, en tout cas, vous
toujours, avez... toujours, tout le temps.
Toujours pour votre ami Alexandre.
Tout le temps pour toutes les personnes que j'ai perdues, ouais.
De votre famille, de vos amis.
Mes amis, toujours. J'ai toujours une petite pensée. Je prie même pour les âmes du purgatoire.
Alors on va rappeler ce que c'est que les âmes du purgatoire. Hein. Ce sont des âmes qui sont en quelque sorte en préparation, qui sont déjà sauvées. Hein, ça fait partie du dogme de l'Église catholique qui explique que... peut-être que vous pouvez d'ailleurs le dire.
Non, je vous laisse...
Je suis pas un théologien.
Je vous laisse raconter.
Vous n'avez pas fait des études de théologie, vous, d'ailleurs?
J'aime beaucoup... j'ai la foi, donc je m'intéresse à la religion catholique, la religion chrétienne. Donc, ma mère me dit... C'est elle qui me dirige un petit peu. Donc, forcément... si je suis là aujourd'hui, c'est en bonne partie grâce à elle.
Donc les âmes du purgatoire, elles sont déjà sauvées, elles sont en train de se purifier, et en fait elles sont allées un peu nostalgiques de la lumière de Dieu, parce qu'elles ont déjà vu Dieu, mais pour l'avoir pleinement, je dis avec mes mots, hein, parce que moi j'y suis pas allé, je ne sais pas ce que c'est, il y a eu des voyants, des voyantes, Marthe Robin notamment, qui en ont parlé dans des écrits, on y croit ou on n'y croit pas, mais en tout cas, ces âmes du purgatoire, la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont déjà sauvées, et c'est
parce
la
grande miséricorde. Qu'on dit qu'elles sont entre les deux, en fait.
Elles sont un peu entre les deux, entre le paradis... Enfin, elles sont loin de l'enfer, elles n'iront pas en enfer. Voilà. Et ce que l'on souhaite, c'est le paradis pour tout le monde et beaucoup de joie en écoutant l'émission Les Athlètes de Dieu. Alors, vous avez une nouvelle bougie à allumer.
D'accord. Hop, merci.
Aux couleurs du Vatican.
Puisez votre énergie dans le Seigneur. C'est fait.
Alors, la couleur jaune, et c'est fait. Ben oui. Mais d'accord, vous puisez votre énergie dans le Seigneur.
Toute mon énergie.
Elle est énorme. Ah oui, elle est débordante parce que vous faites plein de choses. Hein.
Ouais, je fais beaucoup de choses. Je fais plein de choses.
Aujourd'hui.
Et parfois, c'est pas facile. Donc, si j'avais pas la foi Ah, ça fait longtemps que j'aurais renoncé. Hein. Ah ouais, ah si oui. J'avais pas la foi.
Parce qu'aujourd'hui, vous pourriez vivre tranquillement. Et en fait, vous n'êtes pas dans la tranquillité.
Ah non, loin de là.
Parce que je là, votre carrière, elle est dingue, votre carrière.
Je me mets même dans la difficulté.
Mais oui.
Produire un film tout seul en mettant son argent personnel, c'est de la folie.
Ouais. Ah oui, les gens ont dû vous dire, mais qu'est-ce que tu fais, Olivier ?
Ouais, ouais, ouais. Mais t'es fou. Mais les gens, ma famille, tout le monde. Mais c'est important de laisser une petite trace à mon échelle. Le devoir de mémoire, c'est important.
Oui.
Les valeurs sont importantes, encore plus aujourd'hui, le vivre ensemble. C'est très important.
Parlons du vivre ensemble. Et on va évidemment encore continuer à voir dans le fil de votre carrière que le Seigneur était très présent et les rencontres que vous avez faites qui sont juste incroyables. Vous avez côtoyé des grands footballeurs, mais effectivement, il y a quelque chose qui ressort de votre personnalité, c'est de vivre ensemble. Notamment, je pense à ce documentaire sur le racisme dans le football, dans la société. Nous, on comprend pas parce que voilà, on a vécu notamment dans le football où on sait que dans un vestiaire il y a des gens qui viennent de partout. Mais c'était beau de faire ce documentaire. Comment vous avez eu cette idée et pourquoi vous l'avez fait ?
Comment j'ai cette idée ? Cette idée, elle arrive. 90% des gens disent il y a pas de hasard, il y a que des grands rendez-vous. C'était Paul Éluard qui disait ça. Moi, je dis le hasard, c'est l'apparence que prend Dieu sur terre pour passer inaperçu.
Ah,
c'est très joli.
C'est beau ça.
C'est très beau. Hein.
J'avais jamais entendu.
Ouais,
c'est, voilà. C'est de vous ?
Ah non, c'est pas de moi.
C'est
mais
Paul Éluard.
C'est pas Paul Éluard. Il disait toujours il y a pas de hasard, il y a que des grands rendez-vous. L'apparence que prend Dieu sur terre pour passer inaperçu, je trouve que c'est
C'est beau.
C'est magique, ouais.
Ah oui, c'est beau. Parce que votre vie, effectivement, elle n'est pas liée au hasard. Quand on regarde, il y a un fil conducteur qui est.
Mais toujours, en fait. C'est la première diffusion de Ma part d'ombre sur Canal+. Mmh. De mémoire, on est le 7 ou 8 janvier. Et tout le monde regarde Ma part d'ombre. On est en studio, tout le monde regarde Ma part d'ombre. Et moi, je regarde Juve Cagliari et je vois Matuidi qui reçoit des insultes racistes. Mmh. Je regarde comme ça parce que je suis le seul qui regarde pas le match.
En plus sur Blaise qui est juste ouais. Génial.
Comme et même. Quand je vois ça, je me dis si le documentaire il marche, je vais m'attaquer à ce fléau.
Vous avez bien fait.
Ouais, mais c'était
et c'est dur parce que vous y allez franchement. Je l'ai vu là sur Canal+. Vous allez rencontrer un gars d'extrême droite.
Mais à un moment,
vous allez à la confrontation.
Oui, mais parce qu'on entend toujours les victimes, on n'entend jamais les agresseurs. Mmh. C'est important de savoir pour quelles raisons ils ne nous aiment pas. Mais au-delà de tout ça, quand je dis qu'il est avec nous tout le temps, c'est qu'une semaine avant la diffusion du documentaire, et tout le monde va parler du racisme en Europe, c'est Koulibaly de Naples qui reçoit des insultes racistes en Italie. Et tout le monde va prendre position. Tout le monde va parler que du racisme dans le football. Et moi, j'arrive avec Marc, on arrive une semaine après avec un documentaire. Ça faisait un an qu'on préparait ce documentaire. Une semaine avant, on a un teaser qui est extraordinaire. On a un fait.
Et du coup, ça cartonne.
Et ça cartonne. Et ouais. Si ça, c'est pas sa volonté, il se passe pas ça. Ouais. Mais moi, l'histoire de ma vie, toujours, ouais. C'est ouais. Que ça. C'est que des petits clins d'œil.
Ah oui, c'est formidable, c'est le clin d'œil. Et est-ce que vous vous dites que justement, c'est dans votre vie, le Seigneur a un petit peu tracé la route d'Olivier Dacour ?
Toujours. C'est. Mais je peux vous raconter une anecdote.
Allez-y.
Mais celle-là, elle est encore plus. Elle est plus significative parce que je me dis, mais jamais de la vie, c'est pas possible. Quand on fait papa. Donc, Papa, c'est un documentaire sur la difficulté d'être le fils d'un champion. Et on a Joachim Noah, Yannick Noah, on a Romain Ntamack, Émile Ntamack, Jean Alési, Julien Alési, ouais. Rupert, la fille Thierry Rupert et tout. Et on a le petit Johan Djurkaeff. Sauf que nous, avec Canal+, on a perdu les droits. Donc, je rencontre les gens de Canal et ils disent qu'il faut absolument, le 21 novembre, c'est la date du doc. Je dis non, c'est pas possible. Je peux pas, non, pas possible, parce qu'on est en face d'un match. C'est Olympique de Lyon, Olympique de Marseille. L'Olympico...
Ah oui, l'Olympico...
En face, ouais. C'est pas possible. Non, 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 c'est un blockbuster. Nous, on croit en toi. On veut absolument qu'il soit. Le doc passe le 21 novembre. Je me dis, non, jamais de la vie, jamais, c'est pas possible. Finalement, on y va quand même. Alors, le 20 novembre, c'est l'anniversaire de mon fils, le 20 novembre, il y a un match France-Nouvelle-Zélande et Ntama qui fait un match extraordinaire. Extraordinaire. Il fait la une de l'équipe, il prend le ballon de derrière, il fait un essai, un truc magique. Donc, il fait la une de l'équipe. Le soir même, il y a le documentaire Papa. Et le plus fou, c'est que sur, c'est quoi, Amazon, il y a Olympique de Lyon, Olympique de Marseille. Payet va tirer un corner. Nous, notre documentaire, il est à 21h. Le match est à 20h45. Au bout de 4 minutes de jeu, Payet il prend une bouteille. Et le match...
Il est stoppé
le match.
Donc tout le monde
tous les gens basculent sur le documentaire.
Incroyable, donc ça fait un carton.
Non mais c'est un truc de fou. C'est quelque chose, ah, c'est, oui, inimaginable.
Ah oui, voilà, vous nous envoyez quand même pas mal de signes.
Signaux.
Vous nous prévenez, hein, s'il y a des signes sur Athlète de
Dieu.
Non,
mais ce que je dis, c'est que si derrière, on croit pas en Dieu, faut se poser des questions quand même.
Ouais. Ouais, non, mais après, chacun met son regard sur les événements. Mais ce qui ressort aussi, c'est ce qu'on se disait avec Isabelle de Châtelus, c'est que la figure de Saint-Joseph aussi, vous qui êtes papa, cinq enfants, Saint-Joseph qui est un modèle de paternité, c'était la sainte famille avec Jésus, qui lui a pris le métier, qui était là, d'une grande humilité, qui n'a pas répudié Marie alors qu'il aurait pu le faire. Vous vous inspirez de Saint-Joseph ?
Non, du tout. Mais en tout cas, j'essaye d'être présent pour mes enfants, de leur dire que la religion, elle est importante, de prier, c'est important.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que c'est bien, déjà. Et après, j'ai pas de...
Est-ce que vous avez une figure, justement ?
Non, je vais être Marie.
Ah bah, attends, c'est une figure.
Ouais, Marie.
Marie.
Marie. Mais par exemple, j'impose rien à mes enfants. C'est-à-dire que s'ils estiment que la religion catholique, elle n'est pas adaptée à leur vie, ou ils n'aiment pas, pas de problème. Ils veulent être de confession musulmane. Si la religion musulmane peut faire d'eux des meilleures personnes, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de souci avec ça.
Vous savez, Olivier Dacour, ce que vous dites est très juste. Le principe même de la foi, quelle qu'elle soit, c'est la liberté. À partir du moment où il n'y a plus de liberté, il ne peut pas y avoir de foi. Vous êtes d'accord, Olivier ?
Ah ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai pas de... Mon frère est converti musulman. J'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de problème. On a des débats et tout.
Ça va être intéressant, les débats à la maison. Sur la place de Jésus, la place de Mahomet, dans
Mais après, tout le monde arrive avec sa foi. Et ce qui est important, il y a un mot qui est très important, c'est la tolérance.
Ça, c'est beau, la tolérance. Et cette tolérance, vous l'avez apprise aussi dans votre cité d'Emmaüs ? Parce qu'il y a tout
le
monde.
J'ai vécu avec des Algériens, avec des Marocains, avec des Juifs, avec des Espagnols, avec des Portugais. Ben, le vivre ensemble, en fait. Moi, j'ai pas connu... Il y avait pas trop de communautarisme, en fait. Nous, on a vécu tous ensemble.
Ouais, c'est un vestiaire géant, la cité.
Ouais, le quartier était incroyable. Ouais. Nous, je faisais du catéchisme, mais j'ai des souvenirs.
Ah oui, du catéchisme.
Ouais, dans le quartier, oui.
Donc vous catéchisiez, si je puis dire.
Nous, il y avait quelqu'un je me rappelle, c'était la maman de Fatih. De Fatih.
Ouais.
C'était sa maman qui nous faisait le catéchisme.
Génial. Et donc c'est là où vous avez commencé aussi à prendre
le catéchisme. Oui, après ma mère, j'ai toujours. J'ai toujours eu cette foi, en fait.
Alors, en Italie, vous avez passé quand même plusieurs années, il y a de nombreux saints. Saint François d'Assise, Padre Pio, Don Bosco...
Ben, je vais souvent dans l'église de Saint François d'Assise, elle est juste à côté elle est dans le 6e.
Mm-hmm.
Elle est juste derrière la chapelle de Marie.
La chapelle de la rue du Bac, ouais.
Ouais, elle est juste derrière.
Et Saint François qui a tout lâché alors qu'il était fils d'un riche marchand.
Tout à fait.
Ça vous parle aussi ?
Oui, parce que en plus, non, c'est en Italie, ils sont quand même la foi, elle est beaucoup plus présente qu'en France, je pense. Il y a vraiment.
C'est dans leur tempérament aussi, hein, plus démonstratif. C'est des sanguins aussi d'une certaine façon.
Ouais, il y avait il priait aussi, comment il s'appelle, de Padova.
Il est de Padova. Oh là 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 là. Un ancien joueur.
Non, c'est un saint.
Padova.
Padre Pio.
Padre Pio, ouais. Padre Pio, bien sûr. Vous priez Padre Pio, ouais.
Non, je prie pas Padre Pio, mais je sais qu'il est important en Italie. Il y a beaucoup de gens qui prient Padre Pio.
Ah oui, c'est un saint exceptionnel.
C'est un saint exceptionnel, ouais.
C'est un de Saint Giovanni Rotondo, où je crois qu'il y a son corps qui est visible hein, de tous. Et de nombreux miracles sont attribués à Saint Padre Pio. Il y avait des heures de queue quand il était encore vivant pour aller se confesser.
C'est ça.
Et c'était quelqu'un qui avait un don de la vision, notamment de l'âme, qui, et comme de nombreux saints disent, on disait, au ciel, je ferai beaucoup de bien.
Vous connaissez quand même bien la Bible. Vous connaissez bien quand même... Vous êtes très bon.
Non, mais merci. Non, mais j'ai juste la foi comme vous. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans l'aventure avec Europe 1. Et on remercie Europe 1. Et c'est une foi qu'on veut partager, ouais, mais tout en respectant tout le monde.
Ouais, vous pouvez remercier Europe 1. Hein, c'est beau. Hein.
Olivier, la dernière bougie en face de vous. Elle est bleue. Et donc, la phrase, c'est... Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je souris parce qu'en fait, c'est pas la bonne phrase qui est écrite sur la bougie, mais c'est pas grave.
Non, c'était les derniers seront les premiers, en fait.
Il va toujours nous ramener au dernier, mais c'est pas grave, on sera les derniers. Hein,
c'est ça.
Dans une église, vous placez à la première place ou à la dernière place? Oui, d'accord. Quand vous allez dans une église...
Quand je vais dans une église, oui. C'est simple, je me place au milieu, en fait, parce qu'au milieu, je peux accrocher mon casque. Rue du Bac, il y a juste des petits crochets et je peux déposer mon casque.
Et au milieu, c'est votre positionnement sur le terrain.
C'est
quand même.
Ça.
Vous aimez bien voir en avant, en arrière. C'est quand même une position qui est sympa. Hein.
Bah ouais, il faut. On peut tout voir.
Et vous pouvez tout faire. Votre carrière, passeur, buteur.
Là, comme ça, c'est pour vous. Quelle est la différence? Il y a un point commun avec tous les grands entraîneurs. Tous les grands entraîneurs. C'est quoi?
Alors, vous me posez une colle.
Allez, là, je cite par exemple Guardiola, ouais. Arteta, Luis Enrique.
Ah bah,
Zidane, Deschamps...
Milieu de terrain.
Voilà. C'est pas un hasard. Service des autres.
C'est superbe. Être au service des autres. Ça aussi, c'est une marque de foi, d'une certaine façon.
Bah, foi, d'humilité.
Donc si Jésus était footballeur, il aurait été...
Il serait milieu de terrain, c'est sûr.
Et là, il aurait été excellent.
Il aurait été extraordinaire. Mais il est extraordinaire, déjà.
Donc... Ouais. Alors, balle au pied, je sais pas comment il était. Vous l'imaginez, balle au pied, Jésus, ou pas?
Non. Oh, il a des beaux pieds, donc... il devait avoir des beaux pieds, donc...
Avec des sandales? Pas simple.
Il devait avoir la technique de Zidane et le sens du sacrifice d'Olivier Dacour.
C'est un formidable entraîneur aussi, parce qu'il avait une équipe de 12.
C'est ça. Non, c'était... Je pense qu'il aurait été, il aurait gagné la Ligue des Champions facilement.
Il avait un côté Didier Deschamps parce qu'il n'avait pas choisi forcément les meilleurs entre guillemets à chaque poste. Il avait choisi la meilleure équipe. 12 apôtres.
Tout le monde est important, personne n'est indispensable.
C'est vrai. C'est ce qu'on se dit souvent quand on est footballeur aussi pour.
Toujours.
Parce qu'il y a eu des moments justement où en équipe de France, on voulait vous en parler, 21 sélections. Il y a beaucoup de concurrence, Pires, Wiltord, Vieira...
Wiltord, Pires, ils sont devant.
Ouais.
Vieira, Makelele,
ouais.
Manu Petit, Deschamps, ouais. Christian, Lamouchi...
Sabri Lamouchi,
ouais.
Ouais. Mais vous étiez un formidable joueur, mais non, mais c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a des choix des hommes. Et donc, c'est aussi une frustration à gérer de ne pas faire la Coupe du Monde. Parce que vous avez fait des matchs internationaux, vous avez marqué des buts, voilà.
Ouais, après, c'est des choix. C'est des choix, il faut respecter les choix quand les choix sont faits. Le plus important, c'est de se regarder dans un miroir et de se dire qu'on a tout donné.
C'est resté une belle période ou pas? Ça reste une belle période, cette équipe de France?
Oui, c'est exceptionnel, c'est le Graal. Porter le maillot de son pays, la Marseillaise, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Personne me l'enlèvera. Il y a des grands joueurs. Il y a des grands joueurs français qui n'ont pas porté le maillot de l'équipe de France. Il y a des super joueurs. Je pense, j'en ai deux, trois dans la tête. Jérôme Leroy, qui était un super joueur, oui. Il n'a pas porté le maillot de l'équipe de France. Oui. Michael Pagis, super
Pagis,
attaquant.
Formidable.
Ouais, il n'a pas porté le maillot de l'équipe de France. Donc, il y a des choses comme ça dans la vie. Faut accepter.
il y a parfois des petites injustices, faut les accepter. Et en Angleterre, donc vous avez vécu une période aussi à Leeds, ouais. Un club mythique. Hein,
top. Ma meilleure période.
Ah oui.
La meilleure période de ma vie, je pense que c'est Leeds.
C'est vrai ?
Ouais.
Alors pourquoi ?
Parce que aujourd'hui, on a un groupe. Le seul groupe que j'ai, c'est le groupe de Leeds United. Avec tous les clubs où j'ai été, il n'y a pas de groupe. Mais nous, on avait une ambiance dans l'équipe qui était incroyable.
Il y avait des sacrés joueurs, hein.
Ouais, beaucoup de joueurs sont partis dans des très gros clubs après. Rio Ferdinand a fait une carrière.
Rio Ferdinand, Manchester United, extraordinaire.
Ouais.
Et vous êtes encore en lien avec lui?
Ouais, toujours.
Génial.
Tout le temps. Kiwell. Il a joué à Liverpool, il a gagné la Ligue des Champions. Harry Woodgate est parti au Real Madrid. Ah oui. Bowyer est parti à Newcastle. Viduka aussi est parti à Newcastle.
Vous avez rencontré quand même du beau monde hein, sur votre route. Zlatan Ibrahimovic, par exemple.
Ouais, Ibrahim, mais moi, quand je suis arrivé à Rome, c'était...
Francesco, Totti.
Ouais, mais quand je suis arrivé, il y avait Cafu.
Ah, il y avait Cafu, ouais.
Trois finales de Coupe du Monde. Il y avait
Cafu, c'est fou.
Il y avait.
Excusez-moi, c'est.
Aldaïr. C'est fou. Il y avait Aldaïr, Cafu, Candela, il y avait Samuel, Emerson, Guardiola était là.
Ah oui. Et vous avez pu un peu parler
Cassano.
De.
Ouais.
Tu parlais de foi avec eux ou pas
hein? Si, Damiano Tommasi toujours.
Voilà. C'est ça.
Tommy, c'était mon. Ouais. Tommy, et après à l'Inter, il y avait un petit peu plus. Il y avait plus de monde. Il y avait Zanetti, Cordoba, Cambiasso.
Oui.
Parce que à l'Inter aussi, on avait une petite chapelle. J'ai eu la chance parce que dans mes clubs, il y avait des.
C'est, oui, mais là, c'est pas le hasard, mais c'est quand même une chance de pouvoir s'en occuper.
C'est-à-dire qu'on est au centre d'entraînement. Mmh. On dormait au centre d'entraînement et on avait la messe à 18h. Je crois que c'était juste 18h45.
Mais c'est rare, hein. Et ça vous donnait une force supplémentaire sur le terrain. Ça vous apaisait.
Toujours. Ouais. Moi, avant, puisqu'on jouait à 15h le matin, j'allais mettre un petit cierge le dimanche matin.
Est-ce que vous avez vécu aussi, en tant que chrétien, en tant que croyant, rôle de footballeur, mais aussi une responsabilité supplémentaire en disant, il faut que je sois sur les gestes sur le terrain, le comportement dans le vestiaire. Est-ce que ça vous a aussi poussé à être plus gentil, entre guillemets?
En dehors, par exemple, si parfois je faisais quelque chose qui n'était pas... Parce que je n'étais pas un gentil. Je ne suis pas gentil. Je suis gentil, mais je suis très dur. Mais j'avais ça. Je pouvais aller présenter mes excuses. Si j'avais pu participer à blesser, je n'hésitais pas.
Vous avez des grands regrets aujourd'hui ou...
Non, des regrets, on en a toujours. Mais le plus important, c'est... Des regrets, on en a. Je dis toujours que vaut mieux toujours avoir des remords que des regrets.
C'est vrai.
Les remords, on va au bout des choses. Et après, les regrets, c'est pas grave, ça.
Est-ce que cette foi, aujourd'hui...
Mais la foi, pour moi, elle est très particulière. Avant, j'avais un problème avec l'église.
Ah bon ?
Ouais. J'aime aller à l'église, mais j'aimais pas la messe.
Alors, qu'est-ce qui vous gênait à la messe et qu'est-ce qui ne vous gêne plus maintenant dans la messe ?
Moins. C'est-à-dire qu'avant, c'est l'hypocrisie. Pourquoi ? Parce que la paix du Seigneur, juste avant, Dieu vous donne la paix, et un signe de paix.
Mmh.
Et les trois quarts des gens, quand ils sont à côté de vous, peut-être que vous ne le vivez pas, ils me regardent, du fait de ma couleur, ils n'ont pas envie de me donner la paix du Christ. Ils me regardent bizarrement. Alors que normalement, on ne doit pas regarder les péchés, on ne doit rien regarder. Ça doit être quelque chose qui est fait spontanément.
Bien sûr.
Et ça ne l'est pas. Ça me dérangeait. Ça me dérange aussi que tous les gens font semblant d'être des personnes le dimanche à la messe et ils se comportent très mal tout le reste de la semaine. Ça me dérange. Alors moi, je suis en phase avec Dieu. J'ai besoin de personne, en fait. C'est pour ça que je peux aller le mardi, le mercredi. J'ai besoin de personne. Et souvent, avec ce qui s'est passé aussi dans l'église, malheureusement, je ne sais jamais si... C'est horrible ce que je dis. Le prêtre, pareil. Moi, je suis pour... Mais après, c'est moi qui le dis. Moi, ça ne me dérangerait pas de voir un prêtre avec une femme et avec des enfants. Je n'ai pas de problème.
Oui, comme les pasteurs.
Comme les pasteurs.
Bien sûr.
Je suis pour un pasteur. Mmh. Il a sa vie. Ça me dérangerait pas, en fait. Moi, je veux juste qu'il fasse de moi une meilleure personne. Alors après, qu'il ait sa vie. OK, qu'il ait sa vie. Mais au moins, comme ça, je... Parce qu'on entend beaucoup de choses.
Alors, Olivier Dacour, ce que vous dites est très intéressant.
Après, c'est
et
pas
ça
le
va,
propos.
Et ça va. Non, mais c'est le propos parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que vous dites, dans vos propos, dans vos interrogations. Et je pense que c'est important, justement, qu'on en parle. De, pas seulement du rôle du prêtre, parce que c'est là des décisions qui, j'allais dire, nous dépassent, mais du rôle en tant que croyant quand on va dans une église. Sur la paix du Christ, par exemple.
C'est
peut-être
ça.
Que votre présence, eh bien, elle a permis à la personne, peut-être après, on s'entend à l'église, mais pourquoi je vais pas saluer ? Peut-être que votre présence était voulue.
Ah, il y en a beaucoup alors, hein. Ah ouais. Parce que ça m'arrive.
Bah,
parce que
ça m'arrive. À la messe avec moi parce et on saluera et je vous embrasserai comme du bon pain.
Parce que ça m'arrive souvent.
Ouais.
La différence, elle est vraiment très importante. C'est que j'ai fait l'église aux États-Unis.
Oui. Et alors ?
Des gens que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vus. Mais la paix du Christ, c'est incroyable. C'est quelque chose, j'en parle, j'ai la chair de poule. C'est improbable. Je les ai vus. C'est l'histoire d'un moment, d'un laps de temps. Ça a duré 5 secondes. Mais j'avais l'impression que j'étais un membre de leur famille. Et tous les gens, en fait...
Mais je pense qu'il va, je suis sûr que ce podcast va être écouté aussi par des prêtres, des religieux, des religieuses, et peut-être que, ou des diacres, ça va peut-être leur donner envie, de prendre encore plus de temps pour la paix du Christ. Souvent, on nous demande aussi de se présenter. C'est beau aussi, là, vous vous présentez, et vous pouvez échanger un signe de paix un peu plus long. Mais c'est beau ce que vous dites. Et alors, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est votre émission, mais je le dis, d'autant plus fort, c'est que l'Église, c'est un hôpital. Et qu'on est tous
tout
en train
fait.
De se faire soigner d'une
tout
certaine façon, grâce à la présence de Dieu. Et donc, faut pas croire qu'on est tous des saints. Et ça, c'est dur aussi pour le, j'allais dire, pour les personnes qui regardent l'Église ou qui voient ce qui s'y passe.
C'est,
que,
c'est ça. Tout,
c'est pas parce qu'on va à l'Église qu'on est meilleur. Il y a beaucoup
y a des
de saints dans la rue qui vont pas à l'Église.
Voilà. Exactement. Il y a des interrogations. Il y a des gens qui se comportent mieux que des personnes qui vont à l'Église
bien
toutes
sûr,
les semaines.
Bien sûr. Mais le Seigneur est là aussi pour ces personnes qui sont à l'église pour les aider, et vous en faites partie. La façon de témoigner aussi, aujourd'hui, moi je suis très heureux de vous avoir, parce que vous n'êtes pas celui qu'on entend le plus, alors que les mots que vous employez nous ont énormément touchés dans Athlète de Dieu, Olivier Dacour, ancien international, joueur mythique du football français. Quel regard vous portez sur Olivier Giroud ? Olivier Giroud qui s'exprime et qui est évidemment l'un des invités de ce podcast.
Sa carrière parle pour lui, en fait. Et je l'aime beaucoup, en plus. Donc, il a connu des périodes difficiles. À chaque fois, il a toujours été remis en cause. Mais de l'histoire, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et il a gagné partout où il est allé. Il a gagné avec Chelsea, il a gagné avec le Milan, il a gagné partout où il est allé. Et humainement, c'est une belle personne.
Oui.
C'est une très 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 belle personne humainement.
On a été très heureux de l'avoir dans cette émission. Et puisqu'on parle de l'équipe de France et que ce podcast sera lancé aussi alors que la Coupe du Monde va débuter bientôt, un petit mot sur l'équipe de France. Est-ce que vous allez prier pour eux, tiens ? Est-ce que vous priez quand vous
non.
jouez pour gagner ? Ça, c'est pas un de vos trucs.
Non, moi je prie pour qu'ils me donnent la force, pour pas me faire mal.
Ouais.
Je prie toujours pour qu'ils protègent mes proches. Je prie... qu'il n'y ait plus de guerre.
Bien sûr. Et pour cette équipe de France, elle va aller loin ? Je suis un petit pas de côté, là. Hein.
Ouais, je l'espère, en tout cas. Ouais. Je l'espère, parce que quand... Qui dit équipe de France qui va loin, dit beaucoup de joie pour toute la nation. Les gens sont contents. Ils se retrouvent dans des bars. Il y a beaucoup de... Il y a une belle ambiance. Et c'est important, en fait. Il y a le vivre ensemble. Tout le monde se retrouve autour du match. C'est bien.
Quelques questions pour terminer, Olivier Dacour. On parlait de la messe.
Ouais.
La communion, on parlait du geste de paix, mais la communion, ça représente quoi pour vous ? La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie.
Et moi, je prenais pas l'hostie. C'est ma mère qui m'a dit que c'était important. Parce que j'estimais que j'étais pas parfait. Pour moi, prendre l'hostie, c'est fou, être parfait. Parfait.
L'humilité.
Et j'estimais que j'étais pas parfait.
Et votre maman, qui est pleine de bon sens, elle vous a dit quoi, Olivier ?
Elle m'a dit non, tu peux. Tu dois, c'est important. Donc, je l'ai fait. Mais je vais dire à ma mère d'écouter le podcast.
Elle s'appelle comment ?
Franciane.
Franciane, on la salue, on l'embrasse.
Ouais, parce que c'était ma mère aux Antilles, parce que ma mère vit en Guadeloupe, mais la messe est à 7h du matin.
Ah oui, c'est tôt.
C'est très tôt, hein.
Non, après, non, l'avantage, c'est qu'on se balade sur la plage, on a les belles lumières de la Guadeloupe.
Bah, c'est sûr. Moi, je peux vous dire, ma mère prière du lundi pour une semaine de miracles.
Ah oui, c'est vrai.
Moi, je reçois des prières tous les jours de ma mère. C'est en direct.
Non.
Hein. C'est pas que j'en reçois une. Alors, j'en reçois 15 des prières.
C'est génial.
Ah oui, oui.
Attendez, vous pouvez pas nous lire un petit extrait du
prière
de maman ?
Allez, là, c'est la prière. Elle est arrivée à quelle heure, cette prière ? 9h03. Prière très puissante du lundi pour une semaine de miracles.
Ah.
Seigneur Tout-Puissant, ce lundi, je viens toi avec un cœur humble et rempli de foi. Ça, c'est le lundi. Mais si on repart, le dimanche, il y en a 15. Le samedi, il y en a 20.
Elle est formidable, votre maman. Quel plaisir.
Donc forcément, comme elle peut pas envoyer de messages à mon frère, peut-être qu'elle met les messages qu'elle aimerait envoyer à mon frère, elle me les envoie aussi.
Ah, c'est formidable, la famille d'Acour, magnifique. Bon, on embrasse la maman et on va terminer par deux petites questions. La première, est-ce que vous avez une musique, quelque chose qui vous apaise
en ce moment? J'ai une musique qui est incroyable.
Ah, comment elle s'appelle?
Alors lui, je l'ai trouvé, cet artiste, il est incroyable.
Moi, je vais vous faire, pendant que vous cherchez le titre, je vais vous faire une confidence. On avait Laurent Voulzy ce matin, et Laurent Voulzy a écrit une musique qui s'appelle Jésus. Et Nelson Montfort, que j'ai vu aussi, qui m'a dit, mais il faut que tu l'écoutes, elle est formidable. Donc voilà, ça sera une musique, il faudra quand même qu'on la diffuse tôt ou tard dans le podcast, Laurent Voulzy, voilà,
ah, formidable. Ah non, mais alors là, mais lui, par exemple, c'est un artiste, il cartonne en ce moment.
Bon.
Il parle de Dieu, il parle de Jésus.
Alors allez-y, est-ce que vous l'avez retrouvé?
Il s'appelle exactement Meslie Niatis. C'est incroyable. Ça vous donne la joie, ça vous donne la paix. Il est incroyable, cet artiste, Meslie Niatis.
C'est pas cet artiste, c'est formidable.
Eh oui, bon, athlète de Dieu, c'est ça, on découvre des artistes.
Ah ouais. Bon, on va l'inviter, tiens. Je sais pas s'il aime le foot.
C'est incroyable, hein.
Dernière question, Olivier Dacour, athlète de Dieu, c'est la tradition. Vous étiez un formidable passeur, on est d'accord?
Oui.
Bon, est-ce que vous pourriez faire une passe à un autre athlète de Dieu? Quel athlète de Dieu souhaiteriez-vous voir dans cette émission, écouter dans cette émission? Grâce à vous, grâce à vos magnifiques amitiés, vous avez connu vraiment de nombreuses personnalités.
Ouais.
Et
quel athlète de Dieu ?
Ouais.
Parce que je l'ai fait en interview, et c'est un gamin qui est exceptionnel, Eduardo Camavinga.
Eduardo Camavinga. Mais c'est un joueur de premier plan, c'est au Real Madrid, international.
Athlète de Dieu, parce que j'ai assisté à quelque chose, ça me... incroyable. Je l'ai fait en interview pour Canal+. Et après l'interview, j'ai eu la chance d'assister à une prière. Son papa a fait une prière pour tous les gens qui étaient présents. Et c'était incroyable.
La passe est lancée. Merci infiniment, ouais. Olivier Dacour, d'avoir accepté l'invitation d'athlète de Dieu, car vous êtes un très grand athlète de Dieu.
Merci beaucoup. C'est très gentil à vous.
Vous venez d'écouter un épisode d'Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, avec le soutien d'Holly Gaines.